en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi cette émission qui se propose de vous faire découvrir un ouvrage qu'on ne lit plus guère, mais dont le titre fait rêver, Le voyage pittoresque de la Grèce, publié en 3 tomes en 1782, 1809, 1824, donc au milieu du XVIIIe siècle et au début du XIXe, et de vous faire découvrir surtout un auteur qui fut académicien, membre de deux académies, les Inscriptions et Belles-Lettres et l'Académie française, Marie-Gabrielle Florent-Auguste, comte de Choiseul-Gouffier, dont les dates sont 1752, il est né à Paris, et 1817, il est mort à 65 ans à Aix-la-Chapelle. Et pour évoquer ce personnage non moins pittoresque que le titre qu'il donne à son voyage en Grèce, j'ai le plaisir de recevoir M. Frédéric Barbier. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Merci de revenir en nos studios de Canal Académie, car nous avons déjà eu le plaisir de vous accueillir une première fois. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, 4e section, conférence d'histoire et civilisation du livre, et vous êtes également rédacteur en chef d'une revue internationale Histoire et civilisation du livre. Récemment, en janvier 2011, vous avez donné une conférence intitulée « Le comte de Choiseul-Gouffier et son voyage pittoresque de la Grèce ». Alors une toute première précision d'abord, ce comte de Choiseul-Gouffier est-il parent avec le grand Choiseul, ministre de Louis XV ?
Oui, ce sont les Choiseul qui sont une famille qu'on pourrait dire assez pléthorique depuis le milieu du Moyen-Âge, qui sont originaires du Bassigny, c'est-à-dire la région de la Haute-Marne, les marches du royaume en somme, et qui ont formé au fil des siècles un certain nombre de rameaux, dont l'un est celui du duc de Choiseul-Stainville, le célèbre duc dont vous parlez, et dont l'autre, moins célèbre, est celui du comte de Choiseul-Beaupré, le comte Choiseul dont nous parlons aujourd'hui.
Alors Choiseul-Gouffier, il a ajouté Gouffier à son nom, pourquoi ?
Il est né Choiseul-Beaupré, c'était le patronyme dans sa famille, et il s'est appelé Choiseul-Gouffier le jour où il a épousé Mademoiselle de Gouffier-Dailly, qui était descendante et fille unique en fait d'un richissime financier d'Ancien Régime, et le père de cette demoiselle de Gouffier avait demandé dans l'acte notarié, dans le contrat de mariage, que son gendre prenne le nom de Choiseul-Gouffier parce que c'était sa fille unique et qu'après elle, il n'y aurait plus de Gouffier.
Cela dit, c'est pratique pour le reconnaître. Alors, Marie-Gabrielle Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier, il a suivi des études, comme tout le monde, je suppose, classiques. Quel fut le déclencheur de son attirance pour la Grèce ?
C'est difficile à dire parce que nous n'avons pas d'archives privées jusqu'à plus ample informées. Mais le fait est que nous sommes à l'époque, dans les années 1770-80, où commence à s'affirmer le néoclassique, où l'intérêt pour la Grèce est assez généralement répandu dans une certaine catégorie, disons, de la population, bien sûr, et où, en particulier, son oncle Choiseul-Stainville s'était tout à fait rapproché du célébrissime abbé Barthélemy, qu'il avait connu quand il était ambassadeur à Rome, et qui, lui, est l'auteur d'un best-seller, peut-être le best-seller du XVIIIe siècle, Le voyage de Jeanne Anacharsis en Grèce. Donc, quand le jeune Choiseul-Gouffier allait à Chanteloup ou ailleurs rencontrer sa famille, il voyait assez facilement l'abbé Barthélemy. Je pense que c'est l'origine de cette forme d'intérêt.
Jean-Jacques Barthélemy, qui bien sûr était érudit, orientaliste, numismate et membre de l'Académie des inscriptions en 1747, et qui entra à la française en 1789, évidemment avec la date, on comprend qu'il ait pu être le dernier académicien élu dans cette ancienne académie royale. Alors, dans quelles conditions et quand Choiseul-Gouffier effectue-t-il son premier voyage en Grèce ?
Eh bien, c'est la chose un peu surprenante. Barthélemy a beaucoup parlé de la Grèce, mais finalement, il ne l'a jamais vue. Comme la plupart des savants spécialistes de la Grèce, c'était une Grèce de papier, comme je l'ai dit. Tandis que le jeune Choiseul a eu l'idée de faire lui-même un voyage en Grèce et il a élaboré son projet et il l'a mis en œuvre de manière tout à fait systématique. Donc il est parti en 1776 à 24 ans. On dit, je pense que c'est vrai, d'après les sources d'archives, il y a consacré une grande partie ou disons une certaine partie de la fortune de sa femme à financer ce fameux voyage de Grèce et à publier ensuite son livre.
Alors, quand il publie son livre, c'est en 1782, donc il revient de Tours. Quel est le ton de ce livre? Est-ce que c'est un récit journal de bord? Est-ce que c'est un récit archéologique? Ou est-ce que c'est un livre plus politique?
Non, le but de Choisel, c'était retrouver la Grèce des auteurs de l'Antiquité. C'était identifier sur place un certain nombre de lieux dont on avait connaissance dans les textes des grands auteurs de l'Antiquité, à commencer par Homère. Donc, il était parti pour ça. Et dans le groupe des amis qu'il s'était adjoint, ils sont partis à quatre, il y avait un architecte. On voit bien qu'il avait dans l'idée, par exemple, de faire des levées de bâtiments, de prendre des plans précis, de cartographier, et puis aussi de dessiner, lui-même dessiner. Donc, l'idée était celle de faire un voyage de reconnaissance en somme archéologique dans des régions qui finalement étaient peu connues. Et puis, le fait est qu'en allant en Grèce, il a trouvé autre chose que ce qu'il cherchait, c'est-à-dire évidemment, bien sûr, les bâtiments, les ruines, etc., mais il a trouvé les Grecs de son temps. Donc, ce qui est tout à fait intéressant dans le voyage pittoresque, c'est tout l'aspect ethnographique, en quelque sorte. On imagine bien qu'un jeune mondain fréquentant la cour de Versailles vers 1770 n'avait pas beaucoup d'idées sur la manière de vivre dans les îles de la mer Égée ou en Asie mineure.
Mais donc,
il le dit d'ailleurs, et ça l'intéresse, et il a de la sympathie pour tous ces... Puis après, il découvre les Turcs, c'est-à-dire aussi la religion musulmane, toutes sortes de coutumes que finalement, j'imagine, on ne connaissait que par les livres ou sous une forme un peu déviée au théâtre. Donc, il y a tout un aspect ethnographique. Et puis, le fait est qu'il y a, mais c'est moins sensible au début, un aspect, une dimension politique dans le texte.
Les trois volumes de Choiseul Gouffier sont-ils illustrés de sa main quand on les voit dans l'édition originale? D'ailleurs, y a-t-il eu une autre édition que l'édition originale?
Ah, l'histoire de l'édition, madame, est assez compliquée. Mais disons, l'édition originale est celle qu'on trouvera le plus facilement. Et comme c'est un livre très célèbre qui a vaut une certaine somme, on a en général pris soin de le conserver. Donc, finalement, on le trouve assez facilement dans les grandes bibliothèques. Mais Choiseul, il y a deux questions. Il s'était fait accompagner d'un artiste ou de dessinateurs qui ont travaillé avec lui. Lui-même dessinait. Donc, au cours du voyage, ils ont levé des carnets de croquis, ils ont levé des cartes, ils ont levé des plans, etc. Et puis, ils sont rentrés à Paris. Et c'est à Paris qu'on a fait graver toutes les planches du voyage pittoresque. Et donc, une partie gravée d'après les dessins de Choiseul, une partie est gravée d'après les dessins de ses, disons, compagnons. Et puis, de temps en temps, certaines planches ont été redessinées par les grands artistes en vogue des années 1780, comme Moreau le Jeune et d'autres. Il y a tout un aspect aussi. Ces planches sont censées être objectives, montrer la réalité de ce qu'a vu le voyageur, la montrer à tous ceux qui ne peuvent pas voyager. Mais il y a évidemment toute une mise en scène. On voit bien que ces planches sont redessinées à un moment donné.
C'est idéalisé. C'est l'Antiquité rêvée, comme disait justement l'exposition au Louvre récemment sur ce sujet. La vie académique de Choiseul Gouffier, elle est un peu mouvementée. Alors, on va essayer d'en dire l'essentiel. Elle est mouvementée parce que les académies elles-mêmes, entre la période royale, la Révolution, la Restauration, elles suivent, et le Consulat et l'Empire, elles suivent aussi des vicissitudes. Alors, ce qui est sûr, c'est que lui, il a été élu membre de l'Académie royale des inscriptions et des belles-lettres en 1780, à peu près.
J'ai noté 79.
79, oui. Et puis après, il entre à la française, mais pas tout de suite.
En 84. C'était un jeune homme qui devait avoir beaucoup de charme, qui était très bien introduit dans les plus hautes sphères de la cour et qui a eu un succès fou avec son livre. Ce livre a été connu dans toute l'Europe. Au fur et à mesure qu'on l'a publié, il a été achevé, comme vous le disiez, pour le tome 1 en 1782. Donc, Choiseul, c'est surtout, puisqu'en somme il avait 30 ans, c'est sur le crédit de cette publication qui a vraiment fait date
qu'il a été élu à l'Académie des
deux académies successivement. Et à l'Académie française, au fauteuil de D'Alembert.
Il a prononcé son éloge, évidemment.
Qui n'était pas n'importe quel fauteuil, malgré tout, pour un jeune homme de cet âge-là.
Bien sûr.
Et même en général.
Alors, on sait que les académies, elles ont été supprimées par la Révolution en 93, puis rétablies, regroupées sous le nom de l'Institut national en 95. Alors, Choiseul Gouffier a fait partie, il n'a jamais été éliminé, si je puis dire, il a fait partie de toutes ces classes. Et quand Louis XVIII rétablit les académies en 1816, eh bien, il est membre toujours de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. J'ai vu aussi qu'il était membre libre de l'Académie des beaux-arts. Est-ce que vous confirmez cette indication?
Oui.
Bon, parfait.
Ce sont des collectionneurs en même temps. oui. collectionneur d'antiques. Donc, il était assez logique que finalement il soit.
Et sa collection, sa collection est devenue quoi?
Ah, le comte de Choiseul, en visitant la Grèce lors de son premier voyage, avait commencé à faire des envois en France. Et sans doute y viendrez-vous quand il est retourné en Grèce et en Turquie, disons, pour ne pas suivre la géographie politique actuelle, quelques années après. Il a systématiquement fait relever, collectionner des pièces et l'a fait expédier en France. Mais ces pièces ont été perdues ou saisies à la Révolution. Donc Choiseul est entré ensuite, revenu en possession d'une partie de sa collection. Et les choses les plus importantes aujourd'hui sont au Louvre.
Nous allons continuer avec mon invité, Monsieur Frédéric Barbier, à évoquer le comte de Choiseul-Gouffier. Et on marque juste une courte pause.
Qu'y a-t-il au fondement des sociétés humaines ? Canal Académie vous propose de plonger dans la grande histoire de l'homme avec Maurice Godelier, médaillé d'or du CNRS. L'anthropologue, prix Louis Castex de l'Académie française 2008, bouscule les idées reçues et s'élève contre les grandes figures de la discipline. Surprenant, il parle à bâton rompu d'un monde en perpétuelle métamorphose. Qu'y a-t-il au fondement des sociétés humaines ? Une émission au fil des pages à retrouver dès maintenant sur canalacademie.com.
Nous revenons dans notre studio avec Frédéric Barbier, qui est l'auteur d'un livre « Le rêve grec de Monsieur de Choiseul ». Et c'est le portrait de Choiseul-Gouffier que nous sommes en train de dresser. Alors revenons à sa carrière diplomatique, car il a été nommé ambassadeur en Turquie. J'ai adoré l'expression « près la porte ottomane ».
Il était sublime donc porte.
Sublime porte, voilà. Près la porte ottomane, comme il l'écrit lui-même. Donc c'est Louis XVI qui l'envoie à Constantinople. On est en 1784. À quelle situation politique se trouve-t-il confronté ?
Mon Dieu, Choiseul, alors qu'il était candidat puis élu à l'Académie française, a eu connaissance de ce que le poste d'ambassadeur à Constantinople allait être libre. Et donc, comme il voulait poursuivre la publication de son livre, il a assez vite compris que le fait d'être ambassadeur à Constantinople lui donnerait des possibilités qui étaient tout à fait intéressantes de ce point de vue. Donc, son but était d'abord, certainement, de travailler, de continuer son travail d'érudit, de recherche et de publication. Mais le fait est que, quand il est arrivé à Constantinople, il s'est trouvé devant une question qui n'a pris, finalement, qui n'a été résolue et encore que 150 ans après, qui est celle de la situation de l'Empire ottoman, de la poussée de la Russie en direction de Constantinople, de l'intervention de plus en plus évidente de l'Autriche et de rôle toujours en arrière-plan, mais toujours également important de l'Angleterre. Et Choiseul est tombé un peu dans ce poste, dans cette position qui était sans doute une des plus difficiles d'un point de vue de l'histoire diplomatique de l'époque, à un moment où la situation était particulièrement compliquée. Et la deuxième question à laquelle il a eu à faire face, c'est que il a été nommé en 84, comme vous le disiez, mais après, assez vite, la situation en France est devenue
avec quelques troubles intérieurs.
Oui, en réalité, le problème de la Turquie est passé relativement à l'arrière-plan des questions que se posait le ministère. Donc l'ambassadeur s'est retrouvé un peu abandonné à Constantinople.
Et revient-il en France ?
Il revient en France, mais il ne revient qu'en 1802.
Alors, qu'est-ce qu'il fait entre les deux ?
Eh bien, d'abord, il est resté à Constantinople. Choiseul était un ami de Talleyrand. C'est des jeunes gens, tout à fait des meilleures familles, qui étaient favorables aux réformes politiques. Donc, il était favorable, certainement, à la révolution, disons, aux événements de 1789, à donner à la monarchie peut-être une forme constitutionnelle, plus ou moins à l'anglaise, etc. Enfin, là, nous n'avons pas énormément de détails, mais le fait est qu'ils étaient réformateurs. Mais les choses étant devenues de plus en plus difficiles en 92 et en 93,
même, oui.
Quand Choiseul finalement est resté en poste jusqu'au début, jusqu'à la fin 92, et puis à un moment donné, évidemment, il n'était plus possible de rentrer. Ses biens étaient d'ailleurs saisis. Donc en 93, il a demandé l'asile politique à celle qui était son ennemi principal lorsqu'il était ambassadeur, c'est-à-dire la tsarine de Russie, dont il était chargé de contrer, pour l'essentiel, les plans à Constantinople.
Voilà,
c'est vers elle qu'il s'est allé, vers Catherine II.
Catherine II, voilà.
Donc, il est allé à Saint-Pétersbourg.
Elle l'a accueilli très fraternellement, presque, amicalement.
Ah oui, il était très bien accueilli à Saint-Pétersbourg. Je lui ai dit, c'est un exil, mais c'est un exil quand même relativement facile et doré. Et d'ailleurs, une partie de la famille de Choiseul, son fils, se marie en Russie et épouse une demoiselle Potocka, c'est-à-dire c'est la famille des Potocki qui sont parmi les familles les plus richissimes de l'Empire russe à la fin du XVIIIe, au début du XIXe. Donc Choiseul n'est rentré à Paris qu'au moment où son nom a été rayé de la liste des émigrés, où il a été possible qu'il rentre en 1802.
Donc Napoléon, en effet, il n'était, je suppose, pas très Napoléon, mais plutôt royaliste. Il reste fidèle au roi ?
Ah oui, il reste. En plus, à Saint-Pétersbourg, on n'est pas très loin. On est aux portes des Pays-Baltes et Louis XVIII lui-même, quand il était en exil, résidait un certain temps à Mittau. On retrouve dans cette géographie des Pays-Baltes pratiquement une partie de la société d'Ancien Régime qui était celle de Choiseul avant de partir de Versailles. Donc, il est certain qu'il est proche du roi. Il est certain aussi, il y a deux choses contradictoires par contre. D'abord, il a été très reconnaissant à l'impératrice de Russie de l'avoir accueilli. Donc, quand il est à Paris sous l'Empire napoléonien, c'est un habitué des salons de l'ambassade de Russie, etc. Il reste dans ces cercles-là. Et puis ensuite, son fils est marié en Russie et une partie de sa fortune est en Russie à ce moment-là. Donc, il y a les deux dimensions.
Quand publie-t-il son deuxième tome ? Parce que là, on a dit qu'il publiait un premier volume. Il va en publier trois. Donc, le second, quand est-il publié ?
Oh, c'est une histoire compliquée. Quand Choiseul rentre en 1802, il essaye de, disons, rassembler une partie de tout ce qu'il a perdu, puisque rien qu'en allant de Constantinople à Saint-Pétersbourg, il est évident qu'il n'a pas emporté l'essentiel de ses archives, etc. Donc, il a commencé par essayer de rentrer en possession d'un certain nombre de choses. Et puis, d'autre part, il n'avait plus les moyens financiers qu'il avait avant, sous l'Ancien Régime, disons. Et donc, il a entrepris de poursuivre, de reprendre sa publication, dont la première partie du tome 2 est sortie en 1809. L'idée était de publier très vite la deuxième partie. Et puis, les choses ont pris du retard, de telle sorte que la seconde partie est en réalité publiée de manière posthume entre 1822 et 1824.
Et c'est ce qu'on considère comme le troisième tome. Alors, c'est la deuxième partie, en fait, de l'autre.
Il n'y a jamais eu de troisième tome.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu
de troisième tome. En réalité, le voyage de Choiseul, si on veut prendre son itinéraire, il part en bateau de Toulon. Il gagne essentiellement, donc en 1776, il visite les îles de la mer Égée, puis il visite la côte d'Asie mineure jusqu'à Constantinople. Puis il rentre, le retour se fait de Constantinople au Pirée à Athènes en bateau. Et puis après, il rentre à travers la Grèce, à cheval, d'Athènes à Thessalonique et de Thessalonique à travers l'ex-Yougoslavie du Sud, c'est-à-dire la Macédoine, la Haute-Grèce, la Macédoine, le Kosovo, jusqu'à la côte adriatique. Et le voyage pittoresque tel qu'il a été publié ne décrit que la section qui part de Toulon jusqu'à Constantinople. Le retour n'est pas traité.
Le retour n'est pas traité.
N'est pas publié.
Avez-vous fait ce voyage, vous-même ?
J'y avais pensé, mais...
Les traces de Choiseul Gouffier.
Je pense que ça rendrait un peu mélancolique, parce qu'il semblerait que certains paysages grecs aient changé assez profondément depuis l'époque de la fin du XVIIIe.
Pour terminer, on peut dire aussi que Choiseul Gouffier, on lui doit d'autres études. D'abord, son discours sur Homère. C'est un discours qu'il a publié, j'ai vu cela dans les bulletins de l'Académie des inscriptions et belles lettres et même de l'Académie française, le 24 avril 1816, c'était important. Alors lui croit que Homère a véritablement existé, mais c'était une époque où on mettait en doute l'existence d'Homère. Certains n'y croyaient pas.
Oui, le fait est que Choiseul a joué un rôle sur lequel je ne me suis pas trop étendu dans mon livre. Il a joué un rôle dans la redécouverte des sites relatifs à la guerre de Troie. Quand il était à Constantinople, il a fait, explorer assez systématiquement la zone de la guerre de Troie et il a fait un certain nombre de relevés archéologiques et il pensait avoir identifié le site même de Troie avec toujours cette tradition, mais qui n'est pas, ce n'est pas quelque chose de particulier chez lui. C'était assez courant à l'époque de marcher dans le paysage avec l'original grec sous les yeux et de repérer dans ce qu'il avait alors, un arbre, une colline, une falaise, les descriptions d'Homère, comme Homère donnait des sites de la guerre de Troie. On a l'impression parfois que ça peut-être fonctionner, D'autres fois, on a l'impression que c'est tout à fait naïf, c'est-à-dire que pratiquement, il retrouve le chêne célèbre qui, dans telle scène, etc.
Très bien.
Alors que ce chêne n'est probablement pas le même depuis 2000 et
on s'en doute.
Quelques 2000 ans. Et Choiseul est un des premiers redécouvreurs, en somme, de cette situation, de cette position de la Troie homérique.
Une dernière question, Monsieur Barbier. Pourquoi un spécialiste de l'histoire du livre tel que vous l'êtes s'est-il penché sur ce voyage pittoresque en Grèce de Choiseul Gouffier ?
C'est un livre exceptionnel. J'ai commencé, ce qu'il ne faut jamais faire, vous voyez, j'aurais dû, mais je l'ignorais, suivre le conseil de Monsieur de Choiseul ou son enseignement. Lui avait entrepris d'écrire un livre et ce livre l'a amené dans des... Finalement, c'est avoir un cursus dans sa vie auquel il n'avait certainement pas pensé à l'origine. Il a eu beaucoup d'accidents dans la vie, en somme, qui étaient dus à l'idée qu'il a son projet de publier son livre. Et ce livre a eu, plus sérieusement, a marqué une date dans l'histoire du livre. D'abord, c'est un livre tout à fait remarquable. Ensuite, pour un certain nombre de raisons, mais je ne m'y attarde pas ici. Et surtout, Choiseul est l'inventeur d'un genre, qu'on peut dire éditorial, qui a eu un succès phénoménal ensuite. C'est lui le créateur du genre des voyages pittoresques. C'est le premier voyage pittoresque au sens, disons, classique du terme. Et ce genre qu'on a appelé les voyages pittoresques ensuite a eu des développements mais considérables dans l'édition, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, jusque peut-être à la fin dans les années 1840-1850, à ce moment-là.
Voilà, une belle série pour Canal Academy. Je sens que vous allez nous donner des idées.
Les voyages pittoresques les plus célèbres sont ceux... de Charles Nodier et d'un certain nombre d'autres, les voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France. Mais c'est Choiseul qui a...
Initié le mouvement.
Inventé en somme ce qu'on appellerait aujourd'hui ce concept des voyages pittoresques.
Merci Monsieur Barbier d'être venu jusqu'à nous pour nous faire rêver de la Grèce, nous emmener voyager à la suite de Choiseul Gouffier. Je voudrais dire à nos auditeurs que sur le site de l'Académie française, on trouve le discours d'éloge prononcé par Choiseul Gouffier sur D'Alembert, c'était la séance du 26 février 1784, et que après la mort de Choiseul Gouffier, son successeur, qui est un auteur dramatique et critique littéraire, Laya, a prononcé un éloge, sans grand intérêt d'ailleurs, à mon humble avis, parce que je trouve qu'il n'avait pas été très précis sur ce qu'avait fait Choiseul Gouffier. Et ça, c'était en 1817. La notice aussi sur la vie de Choiseul Gouffier, la plus intéressante, c'est celle prononcée par Dacier le 23 juillet 1819, parce qu'elle est dans les archives de la bibliothèque de l'Institut et que Dacier étant membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Alors, pour en savoir beaucoup plus sur ce personnage, eh bien, vous pouvez vous informer en lisant l'ouvrage de Frédéric Barbier, « Le rêve grec de Monsieur de Choiseul », avec un sous-titre « Les voyages d'un Européen des Lumières », c'est paru chez Armand Collin en 2010. Merci monsieur et à bientôt.
Merci madame.